interviews, reportages et dossiers ponctuent votre magazine Santé pour tous sur Radio de la Paix. Tous les jeudis, Paul-Bénédicte Bolou pilote le rendez-vous consacré à la santé et au bien-être.
Parfois mortelle, la pneumonie doit être prise très au sérieux. Cette infection virale ou bactérienne, si elle se traite bien, doit être surveillée de près chez certains malades chroniques. Dans 20 à 30% des cas, le germe responsable ne pourra pas être identifié. La pneumonie peut se développer chez n'importe qui et à n'importe quel âge dans la population générale. Nous parlerons aujourd'hui de pneumopathie ou pneumonie, et ce, dans la première partie de ce magazine de santé. Et dans votre rubrique, et le docteur, il sera question du rhume chez l'enfant. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans Santé pour tous.
Les experts de la santé répondent aux questions de santé pour vous éclairer.
Professeur Kwasi Boko Alexandre, bonjour. Vous êtes pneumologue au CHU de Cocody. Dites-nous, qu'est-ce que la pneumonie? Comment la définir?
La pneumonie, c'est de façon, je dirais, brève, c'est l'infection du poumon. Alors, quand on dit bronchopneumonie, ça veut dire qu'il touche les bronches et le poumon. Donc, la pneumonie, c'est le parenchyme du poumon qui est touché.
Quelles sont les causes d'une pneumopathie ou d'une pneumonie?
Les causes, c'est surtout les infections. Donc, ça veut dire les microbes qui peuvent entraîner la pneumonie. Les microbes peuvent parvenir au niveau du poumon de plusieurs manières, soit en inhalant. C'est-à-dire que l'air qu'on respire peut contenir des microbes. Soit il y a une plaie quelque part et les microbes vont passer dans le sang et vont migrer vers le poumon. Ou bien il y a une infection juste à côté du poumon. Par exemple, si vous avez une infection digestive, les microbes vont par contiguïté passer le diaphragme et toucher le poumon. Mais la voie la plus importante, c'est la voie de la respiration. C'est-à-dire que le microbe est dans l'air. Vous êtes en contact avec quelqu'un qui a une maladie, qui tousse, il crache, il émet des microbes. Vous inhalez les microbes qu'il vient d'émettre comme malade. Alors, vous allez avoir des microbes dans l'organisme, dans le poumon, et cela va entraîner une pneumonie.
À vous entendre, cela est effrayant. Est-ce à dire que cela intervient de façon brusque?
La pneumonie ne survient pas comme ça. Sinon, nous tous, on allait faire tous les jours les pneumonies. Parce qu'il existe un système de défense local et, je dirais, général qui empêche le développement des microbes. On a ce qu'on appelle l'escarlatomycocytose, c'est-à-dire qu'il y a des sécrétions, il y a les cils du poumon, ce sont des cellules. Donc, ils vont épurer tout ce qui est saluté au niveau du poumon. Donc, chaque jour, il existe un système pour d'épuration. Et puis, il existe aussi des anticorps qui vont intervenir de façon générale, et aussi les macrophages et les eosinophiles qui empêchent les microbes.
Alors, dites-nous, professeur, lorsque le microbe est très virulent, qu'est-ce qui peut nous arriver?
Lorsque l'organisme est fragilisé, que la quantité des microbes est importante, alors tous ces systèmes de défense ne pourra pas contrecarrer l'infection. Quand l'organisme est fragilisé, on va voir que ceux qui font la pneumonie, le sujet VIH va faire beaucoup plus de pneumonie et va faire des pneumonies plus graves parce que l'organisme n'arrive pas à se défendre. Quelqu'un fume, par exemple, et il détruit localement le système de défense. Par conséquent, quand le microbe arrive, le poumon ne peut plus se défendre. Quand la personne est alcoolique, il est diabétique, il a une insuffisance hépato-cellulaire, une insuffisance rénale, ce sont des personnes qui sont fragiles. Alors quand le microbe rentre alors dans le poumon n'arrive pas à se défendre. L'infection va se développer et entraîner l'infection pulmonaire qu'on appelle communément la pneumonie.
On va revenir au mot de transmission, de contagion de façon explicite. Dites-nous, comment contracte-t-on les germes?
Vous avez quelqu'un qui a une infection. Quand la personne tousse, en toussant, si vous mettez même des miroirs devant vous, vous allez voir qu'il y a des crachats qui sortent. Ou bien lorsque la personne parle à haute voix, ou bien lorsque la personne éternue, ou lorsque la personne rit, et ces bouts de crachats-là peuvent contenir les microbes, puisque le poumon est infecté. Alors, ces microbes, ces crachats qui les met, si vous êtes à côté ou vous êtes non loin de lui, parce que aussi les crachats peuvent être suspendus longtemps dans l'atmosphère, alors vous respirez. En respirant bien sûr l'air, vous allez inhaler aussi les crachats qui viennent d'émettre. Ces microbes qui sont contenus dans le crachat vont arriver au niveau du poumon et vous allez être infecté.
Est-ce que les symptômes de la pneumonie varient en fonction des causes? Si oui, professeur, quelles sont les manifestations pour parler des signes les plus fréquents?
Il y a deux groupes de signes. Il y a les signes qu'on appelle les signes généraux et les signes fonctionnels, c'est-à-dire que les signes qui sont en rapport avec le poumon. Les signes qui sont en rapport avec le poumon, c'est la douleur. Cette douleur vient un coup, il y a un coup de poignard. Et même le malade peut vous dire, ça m'a fait mal tel jour à telle heure. C'est un point de côté. Et deuxième signe, c'est la toux. Et justement, cette toux-là va aggraver la douleur parce que quand il touche, ça fait mal. Donc une toux, mais une toux qui est productive, c'est-à-dire une toux grasse. Même si les crachats, ça ne sort pas beaucoup, ça sort un peu. Et ces crachats-là, ça peut être blanchâtre, ce qu'on appelle muqueux, ou bien on peut avoir quelques pus dedans pour témoigner de l'infection. Parfois, mais ça peut être rouillé, comme si c'était du fer. Et puis, parfois, si c'est grave, c'est la lésion étendue. Mais on n'a pas avoir des difficultés de respiration au niveau du poumon ou bien même avoir du sang dans les crachats. Mais les signes généraux, c'est la fièvre. C'est une fièvre importante. 39-40 degrés. À côté de la fièvre, le malade va frissonner. Mais les frissons, on ne peut pas les avoir toujours. Mais la fièvre est presque constante. Puis le malade n'a pas l'appétit. Il peut se sentir fatigué.
Parlons de ces personnes qui représentent le plus de risques à souffrir de complications, de ces facteurs de risque-là.
Il y a plusieurs facteurs, pas fait une liste exhaustive. Par contre, ce qu'on a l'habitude de voir, il y a des personnes à risque, par exemple, l'infection à VIH, ça c'est clair. Maintenant, si la personne prend ses médicaments de VIH, il devient immunocompétent, par conséquent, le risque est réduit. Même un sujet normal, vous pouvez faire une pneumonie, ça va parce qu'il a le VIH, s'il est immunocompétent, il ne va pas faire. Non, un sujet normal peut faire. Donc, il y a un risque qui est réduit. Plus vous êtes immunocompétent, moins vous avez un risque de faire la maladie. Maintenant, en dehors de ceux qui sont fragilisés, il y a des gens qui sont fragilisés, je dirais, de façon naturelle. C'est les enfants, ceux qui ont de 0 à 5 ans, ont un risque plus élevé parce que l'organisme n'est pas encore très mature. Puis ceux qui sont plus âgés, pas de 65 ans, ils ont aussi un risque plus élevé parce que l'organisme, vu l'âge, celui ne se développe pas comme il se doit, il devient fragile.
Professeur, est-ce que ces complications ont parfois une issue mortelle?
Si la prise en charge est correcte, on traite bien, ça va. Il faut dire que c'est une maladie hautement mortelle. Très grave, ça tue facilement. Les infections respiratoires constitue la première cause de mortalité dans les pays en développement en Afrique. Au plan mondial, je crois que ça revient à la quatrième place.
Quel est le meilleur moyen de prévenir la pneumonie? Comment contribuer à diminuer également les risques d'attraper une pneumonie? Et concernant le traitement, quel est celui qui est vivement conseillé?
La prévention, c'est déjà se soigner correctement. Pour ceux qui ont l'état, il faut faire un suivi régulier. Par exemple, le sujet VIH, il doit prendre ses médicaments. Le sujet tabagique, il doit arrêter de fumer. Le sujet éthylique, il doit réduire, sinon arrêter de consommer l'alcool. Et ceux qui sont diabétiques, ils doivent prendre correctement leurs médicaments. Ils seront alors à l'abri. Mais pour ceux qui ne prennent pas des précautions, qui en fait ne sont pas équilibrés, qui sont toujours fragilisés, l'infection est toujours grave. Enfin, la mortalité est élevée sur ces personnes. Maintenant, lorsque la personne est vraiment fragile, il y a des vaccins qu'on propose. Il y a des vaccins contre le pneumocoque parce que c'est le germe le plus fréquent. Et puis, le vaccin contre la grippe pour prévenir sur les terrains fragilisés. Maintenant, le traitement, ça dépend de la gravité. Quand c'est très grave, il ne faut même pas chercher à traiter à la maison. Il faut envoyer le malade directement à l'hôpital. Mais quand ce n'est pas grave, il faut toujours voir comment même médecin. En général, c'est des médicaments simples. En général, l'amoxicilline, ça suffit. Quand on prend la dose correcte pendant 8 jours, et on va permettre de guérir le malade. Maintenant, si après 3 jours, 24-72 heures, si on n'a pas d'amélioration, la fièvre persiste, le médecin doit revoir le malade, faire une investigation pour savoir est-ce qu'il s'agit vraiment de pneumonie. Mais un élément important pour faire le diagnostic, en plus des signes que j'ai vus, il y a la radio qui est un élément important. Donc, si le médecin voit que ça ne marche pas, il peut reprendre un certain nombre d'examens et il va réorienter son diagnostic.
Justement, parlons de ces médicaments. Est-ce que certains traitements n'affaiblissent pas aussi le système immunitaire du malade?
Non. Ça n'a aucun impact sur le système immunitaire. Bien au contraire, ça vient détruire les infections. Donc, ça permet à l'immunitaire d'être restauré, de reprendre. Donc, il n'y a pas d'impact.
Professeur, comment faire pour réduire dans ce cas les risques de contracter une pneumonie?
Il y a l'hygiène de vie en fait. L'hygiène de vie, c'est éviter d'être dans un coin que la promiscuité, c'est-à-dire que les personnes qui vivent de façon tassée dans un espace peu aéré. Cela peut dépendre aussi de l'approche de la personne. Donc la population pauvre est beaucoup plus concernée. C'est l'hygiène. Vous ne devez pas tousser à l'air libre. Vous devez fermer avec un mouchoir à la bouche pour ne pas émettre beaucoup de crachats dans l'atmosphère. Il faut toujours se méfier. Celui qui tousse, quand vous voyez que quelqu'un tousse, il n'a pas fermé sa bouche. Évitez d'être trop proche de la personne parce que s'il a une infection, vous allez prendre l'infection. Et avoir un milieu bien assaini, la propreté, etc., etc. Parce que les microbes même peuvent tomber par terre et en balayant, on remue. Maintenant, bien sûr, si vous avez une maladie, il faut bien traiter la maladie.
À quel moment consulter professeur.
Dès que vous avez les signes, justement, c'est ce qui fait que les gens meurent. Lorsque vous constituez tard, vous avez un risque élevé. On s'est rendu compte que lorsque les malades viennent à l'hôpital et qu'on fait le diagnostic, si on leur prescrit les ordonnances, ceux qui font 48 à 72 heures sont les personnes qui meurent plus. Parce qu'il ne doit pas avoir de retard dans la prise en charge. C'est pourquoi dans la pneumonie, contrairement aux autres maladies, on dit aux médecins que si vous pensez que c'est une pneumonie, vous n'attendez pas les résultats. Vous devez immédiatement mettre le malade sous traitement. Donc, un délai très bref. Donc, si on suspecte une pneumonie, vous avez mal, vous avez une fièvre importante, vous avez mal au poumon, une fièvre, vous toussez, il ne faut pas hésiter, il faut voir rapidement un médecin. Et le médecin ne va pas hésiter à vous mettre sous traitement si il s'agit d'une pneumonie. Nous, on dit que c'est une infection grave, donc on ne joue pas avec. La pneumonie constitue la deuxième cause d'hospitalisation. Après la tuberculose, c'est la pneumonie. Donc, la pneumonie, quand même, occupe une place importante. Et dans nos études, on trouve que la pneumonie, à un moment, on est à 12%. Et lorsque le VIH est venu, on est passé jusqu'à 18-20%. Maintenant, avec les traitements liés au VIH, on est redescendu aux alentours de 10 à 12%. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une flambée sous l'infection à VIH. Mais avec le traitement ARV qui est efficace, nous sommes revenus à un taux normal, enfin, je dirais, au taux ancien. Il y a des périodes où on est fragilisé. Par exemple, la saison sèche, c'est possible. Le fait que l'air soit sec et que l'air qui va au poumon est de l'air qui est chaud, ça peut avoir un impact. Aussi, la saison des pluies, on a toujours froid. Dès qu'on prend un microbe, on est fragile. Donc, ça dépend donc des périodes.
Professeur, ici prend fin notre entretien. Avez-vous un appel à lancer aux populations?
Ce que je peux dire à la population, les infections respiratoires comme la pneumonie, la contamination ou la transmission des germes, c'est par voie aérienne. Et nous préconisons à la population d'avoir une hygiène de vie. L'hygiène de vie, avoir la propreté dans son milieu. Et puis aussi, lorsque vous toussez, considérez toujours qu'une toux n'est jamais banale. Par conséquent, lorsque vous toussez, vous devez éviter de contaminer votre entourage. Parce que si vous toussez à l'air libre, vous émettez des crachats. Donc, ils peuvent contaminer. Alors, en toussant, prenez les mouchoirs et toussez dans les mouchoirs. Si ça vous surprend, vous mettez dans le coude, vous éternuez dans votre coude pour éviter de disséminer la maladie. Maintenant, pour ceux qui sont fragiles, naturellement fragiles, nous leur disons de se traiter correctement. Vous êtes VIH, il faut prendre vos médicaments. Vous êtes tabagique, il faut arrêter de fumer. Vous avez un facteur de risque tel que le diabète, il faut prendre en charge votre diabète. Si malgré toutes ces mesures, vous êtes malade, c'est-à-dire que vous avez une fièvre importante, vous toussez, vous avez une douleur thoracique, n'hésitez pas à voir rapidement votre médecin. Et le médecin saura comment vous prendre en charge. Parce qu'une pneumonie est avant tout une infection urgente qui peut entraîner la mort si la prise en charge n'est pas précoce.
Tous les jeudis, Paul-Bénédicte Bolou pilote le rendez-vous consacré à la santé et au bien-être.
Radio de la paix.
La pneumonie s'accompagne généralement d'une fièvre importante et peut entraîner une baisse de la tension artérielle et du tonus. Elle se traduit par une toux et des difficultés respiratoires plus ou moins marquées. Si elle touche à la membrane qui entoure les poumons, elle provoque généralement des douleurs thoraciques et une variation du rythme cardiaque.
Hello docteur, Bobo, maladie spécifique infantile chez les nourrissons, les bébés et jeunes enfants. Des conseils de santé pour prévenir et traiter les maladies les plus fréquentes chez l'enfant.
Comment soigner le rhume chez l'enfant ou que faire? Faut-il consulter le médecin? Quel traitement lui donner? Parents et le docteur s'intéresse aujourd'hui pour vous au rhume chez l'enfant et avec nous le docteur Bois-Nicole, pédiatre, pour donner des conseils.
Hello docteur, parle des maladies qui touchent les enfants de A à Z. Sur Radio de la Paix.
Bonjour docteur, mon enfant est souvent enrhumé. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'un rhume?
Le rhume est encore appelé rhinite. On peut dire le nom scientifique. C'est une inflammation de la muqueuse nasale. Ça peut être dû à un virus, ça peut être dû à une bactérie, une allergie, parfois même l'inhalation de corps étrangers par irritation. Donc, il y a plusieurs facteurs qui peuvent déclencher le rhume un peu.
Quel est le signe que notre petit, notre bout de chou, vient de rencontrer un nouvel agresseur qu'il est en train de certainement combattre?
On a le nez qui coule. Parce qu'on connaît assez souvent, c'est l'enfant qui va présenter une rhinorrhée. Ensuite, on a une congestion nasale, c'est le nez bouché. On peut avoir des éternuements, on a des démangeaisons aussi du nez. Le rhume peut s'accompagner de tout, comme ça peut être un rhume simple, mais assez souvent, il y a une petite toux qui suit, de douleur de la gorge, d'une conjonctivite, parfois les yeux qui deviennent rouges et en même temps qui larmoient et parfois même qui sécrètent carrément du pus. Et ces yeux-là vont assez souvent démanger aussi. Des maux de tête, des courbatures, on a un peu mal partout, on se sent fatigué, une anorexie. La fièvre est assez fréquente aussi, à moins qu'il y ait une autre infection sous-jacente. La fièvre du rhume, généralement, est une fièvre qui n'est pas très élevée. Parfois, la voix devient rauque et la respiration aussi peut parfois être modifiée. Elle peut devenir bruyante, parfois sifflante. Si le rhume est un peu dans un contexte d'asthme, par exemple, ou de bronchiolite.
Docteur, maintenant que l'enfant est enrhumé, que faut-il faire à ce sujet?
Un rhume banal d'origine virale, il guérit spontanément. Il faut aider un peu. Déjà, quand l'enfant est encombré, il faut trouver une bonne position pour que l'enfant puisse bien respirer. Parfois, c'est en le mettant sur le ventre, parfois, c'est en le mettant sur l'épaule. Si les narines sont très encombrées, on peut aspirer à ce qu'on appelle des mouches bébés qui existent. On peut laver les narines aussi avec du sérum physiologique. Ça se vend dans les pharmacies. Et si l'enfant a des difficultés pour manger parce qu'il est encombré, il ne peut pas manger, il faut fractionner le repas. Et de préférence, il faut donner des repas liquides et semi-liquides. Il faut surveiller la température. Il ne faut pas donner systématiquement un antibiotique. Ça, j'insiste dessus parce que l'antibiotique ne doit être administré qu'après avoir consulté s'il y a une infection sous-jacente ou alors s'il s'agit d'une rhinite infectieuse bactérienne diagnostiquée par le médecin.
À quel moment nous devons nous inquiéter, docteur?
Vraiment, vous avez tout fait, vous avez lavé, vous avez aspiré, il n'arrive pas à respirer, vous n'allez pas continuer, il faut consulter. Quand l'enfant se met à trop vomir, avec le rhume, il vomit tout ce qu'il mange, rien ne reste dans le ventre, il commence à se déshydrater, il commence à être en hypoglycémie parce que rien ne reste, il ne faut pas attendre aussi, vous voyez qu'il s'affaiblit, il faut consulter. Quand la fièvre monte, alors qu'elle ne devrait pas monter. Une toux qui est très gênante, qui fait que l'enfant n'arrive pas à dormir, qui fait que l'enfant ne se porte pas bien, il faut penser aussi à consulter.
Comment se fait la contamination, docteur Bois?
La contamination se fait essentiellement par le contact. Il faut tenir un enfant assez loin, sinon ne pas donner son enfant à une personne qui est enrhumée. Il faut faire un lavage régulier, je dirais, des mains, parce que c'est surtout les mains qui portent donc ces germes-là. Ça permet d'éviter cette propagation donc, du germe autour de lui. Et puis, il faut instituer des mesures environnementales, surtout quand on pense à un rhume d'origine allergique.
Que faire donc dans le cas où un enfant est assez souvent enrhumé?
Quand un enfant est assez souvent enrhumé et que ça fait penser à une allergie ou que le médecin vous a dit que c'est une allergie, il y a des choses qu'il faut faire. Par exemple, il faut éviter les oreillers en plumes, la laine. Il faut éviter les animaux domestiques en général parce que les poils, les plumes, ça peut être allergisant. Il faut nettoyer régulièrement la maison, surtout la chambre de l'enfant. Et puis, j'insiste aussi sur le tabagisme parental.
Un conseil pratique, docteur Bois, à l'endroit des parents qui nous écoutent.
Le rhume peut être banal. Un enfant peut faire un rhume qui va même spontanément guérir. Mais le rhume peut cacher aussi quelque chose de plus sérieux, qui mérite plus d'attention et qui mérite parfois même des examens. Donc devant un rhume, il faut penser aussi à consulter. Il faut penser à faire ce que le médecin va dire.
Hello docteur, s'est intéressé au rhume dans la deuxième partie de Santé pour tous. Il s'est agi de comment le contracter, le soigner et mieux l'éviter.
Les experts de la santé répondent aux questions de santé pour vous éclairer.
S'il existe une multitude d'éléments ou de microbes pouvant causer une pneumonie, certains facteurs tels que l'âge, le diagnostic précoce, la nature de l'infection et l'absence ou non d'une autre maladie influencent la guérison. La plupart des pneumonies ne nécessitent pas d'hospitalisation. Il suffit de bien s'hydrater de quelques antibiotiques oraux, à l'exception de la pneumonie virale et du repos pour guérir. Par contre, si les symptômes s'aggravent ou que les personnes souffrant de la pneumonie sont vulnérables, une hospitalisation urgente est souvent requise. La prévention est un élément essentiel compte tenu de la gravité de cette maladie. On en parlait à l'entame de ce magazine avec le professeur Kwasi Boko-Alexandre, pneumologue au CHU de Cocody. Et dans Hello Docteur avec le docteur Bois-Nicole, pédiatre, il était question du rhume chez l'enfant. Apprenons donc aux enfants à éviter de transmettre le rhume en se couvrant le nez et la bouche avec un mouchoir lorsqu'ils toussent ou éternuent et à se laver les mains après s'être essuyé le nez. Si un enfant attrape beaucoup le rhume, ce n'est pas parce que son système immunitaire est faible, c'est simplement parce qu'il est exposé à de nombreux virus. Fin de ce magazine de santé pour tous sur Radio de la Paix. Merci et à bientôt.